Bonjour à tous. Il nous reste 14 jours pour faire nos achats de Noël. N'oubliez aucune liste de cadeaux, n'oubliez aucune liste de nourriture et la fête doit être belle. Notre culture nous convainc extrêmement bien que nous devons nous plier à ces rituels. Il faut dire que les jours courts, le froid, la pluie, quelques flocons de neige, nous mettent bien en condition pour cela. Nous avons envie de lumière, de choses qui brillent, de paillettes peut-être. Aujourd'hui, nous sommes le second dimanche de l'Avent. En tant qu'Église, en tant que disciples de Jésus, que voulons-nous vivre pendant cette période ? Quand nous regardons ce que l'Église, tout au long de son histoire, a dit sur cette période de l'Avent, qui nous amène à Noël, ce n'est pas une surprise, il n'y a pas beaucoup de paillettes par ici. L'Avent est une sorte d'équivalent du carême, ce temps avant la fête de Pâques, pendant lequel nous sommes invités à réfléchir au sacrifice de Jésus, un temps de jeûne, quelle que soit la manière dont on pratique ce jeûne. Et c'est la fête de Noël, et même les deux semaines qui suivent Noël, qui sont réservées aux choses qui brillent, à une belle lumière, à une pleine joie. L'Avent, un temps pour nous préparer, donne la possibilité de vivre un contraste bienvenu entre le festin de Noël, avec une explosion de lumière, et un temps où l'on allume les bougies, les unes après les autres seulement. Le contraste est aussi spirituel, car nous pouvons vivre un temps d'attente et de préparation, puis à Noël, un temps de joie et de célébration. L'Avent est paradoxal, c'est une saison d'attente, d'anticipation, dans laquelle l'attente est étonnamment riche et pleine. C'est une saison qui regarde en arrière vers la première venue de Jésus, une saison où nous réfléchissons à ses autres venues dans notre vie au quotidien. Et elle regarde aussi tout en avant vers la dernière venue de Jésus-Christ. L'Avent nous prépare à cette période de Noël pendant laquelle nous proclamerons « Paix sur la terre, joie pour le monde ». L'histoire de Noël est étonnante et inattendue. Dieu vient habiter parmi nous, Dieu s'incarne dans notre humanité. Est-ce que nous sommes prêts à cela ? C'est une question qu'il est étrange de poser, puisque, nous le savons, c'est déjà arrivé il y a 2000 ans. Mais la célébration de Noël chaque année, comme les autres moments de l'année que Dieu nous donne de vivre, nous permet de nous poser à nouveau la question, et peut-être qu'il y a quelque chose à en tirer. La venue de Jésus sur terre, le fait qu'il se soit incarné pour venir, a changé les choses pour toujours. Cette venue incarnée est essentielle dans la manière dont nous vivons notre relation avec Dieu, un Dieu qui a choisi d'être Dieu avec nous, Emmanuel. L'incarnation nous dit quelque chose de fondamental au sujet de Dieu, au sujet de la création dans laquelle nous vivons. Ce qui est matériel est important. Une parole pas facile à départager en cette saison d'achats survoltés, d'échanges de cadeaux matériels qui perdent peut-être de leur sens. Mais c'est fondamental, je crois. Le monde matériel est important dans le sens où il est la création de Dieu, et nos comportements, à Noël et tout au long de l'année, ont des impacts sur cette création, y compris sur nos frères et sœurs humains partout sur Terre. Dieu a montré que ce qui est matériel est essentiel en créant le monde, et il a encore insisté là-dessus quand il a choisi le moyen de l'incarnation pour réaliser son plan de salut. Les moyens mis en œuvre en disent beaucoup sur l'objectif final, qui est la restauration de la création. Dans les siècles passés, dès la fin du 1er siècle, il y a eu des tendances à se dire que seul le spirituel compte, que le matériel ne compte pas, des tendances qui finissent par dire que Jésus n'est pas réellement devenu homme. Cela simplifie les choses, nous permettant de nous réfugier derrière la croyance que le mal matériel n'est pas si grave que ça, puisque ça passera quand le monde deviendra spirituel. Et c'est une croyance qui peut justifier bien des abus envers des personnes défavorisées. Le temps de l'Avent, le fait de réfléchir à l'incarnation, nous invite à prendre en compte cette question dans nos vies. En plus de nous faire réfléchir au sens de l'incarnation, l'Avent est un temps d'attente et de préparation à la venue de Jésus. À travers l'histoire, l'Église a vécu le temps de l'Avent comme une préparation à cette venue, à sa première venue, pour célébrer l'événement de Noël, son incarnation, et nous en souvenir ensemble, mais aussi une préparation à sa seconde venue, celle qui est encore à venir. Et puis, c'est une manière pour nous de réfléchir à une troisième façon que le Christ a de venir à nous, celle où il vient à notre rencontre dans le moment présent, au quotidien et dans les temps de culte. Ce matin, je lis un texte du prophète Ésaïe, dont de nombreux versets sont repris pendant l'Avent et pour Noël, parce que nous y reconnaissons des annonces de la venue de Jésus, parfois sa première venue à Bethléem il y a 2000 ans, et parfois l'annonce de sa victoire finale. Nous lisons Ésaïe 57, les versets 14 à 19. On dira alors, préparez, préparez, dégagez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Non, je ne veux pas lancer éternellement des accusations. Je ne veux pas m'irriter indéfiniment, car il est trop faible devant moi, l'esprit, le souffle des êtres que j'ai moi-même fait. C'est à cause de ces profits criminels que je me suis irrité et que je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin que lui indiquait son cœur. J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai. Je le guiderai et je lui assurerai une pleine consolation, à lui et à ceux qui sont en deuil à cause de lui. Je ferai naître la louange sur leurs lèvres, je donnerai la paix, oui la paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, et je les guérirai. Une première étape dans ce texte d'Ésaïe, c'est préparer le chemin. Le verset 14 dit « On dira alors préparez, préparez, dégagez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple ». Nous sommes invités à participer à cette préparation. Au moins une fois dans l'année, au milieu de nos occupations, nous pouvons nous recentrer sur la seconde venue de Jésus et sur notre participation à préparer ce retour, celle dont nous parlons quand nous prions que ton règne vienne. La première venue de Jésus est associée à ce chemin à préparer, avec Jean-Baptiste qui est celui dont il est dit dans Luc. Jean-Baptiste est celui qui sera appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. C'est dans Luc 1, les versets 74 et 60 à 79. Préparer le chemin, c'est une expression qui revient dans le texte qu'on a lu dans Ésaïe 40 ce matin. Malachie 3 aussi, et il est question soit de préparer le chemin du Seigneur, de préparer le chemin de son peuple, préparer le chemin tout court. Et Jean-Baptiste, en Jean 1, on a parlé ce matin aussi, est présenté comme la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin au Seigneur. Nous qui sommes disciples de Jésus, nous marchons à sa suite, le chemin est essentiel. Continuons à préparer les chemins là où nous sommes, parce que Dieu nous donne de vivre, continuons à être témoins de l'œuvre de Dieu qui prépare son chemin et qui nous donne parfois la grâce de le voir. Le chemin de Dieu est le chemin de la paix. Préparer le chemin, cela nous ramène aussi à l'Exode, notamment avec les autres passages qui nous invitent à préparer le chemin dans le désert. La marche avec Dieu n'est pas nécessairement de tout repos, le désert n'est pas un lieu accueillant. C'est pourquoi la suite du texte est importante. Dans le texte, Dieu nous dit « Je suis le Dieu très haut et j'habite aussi avec celui qui est abattu afin de redonner la vie. » C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Le Dieu que nous apprenons à connaître d'une manière toute nouvelle quand il vient au premier Noël. Dieu avec nous, ce n'est pas une image qui est facile à saisir, ce Dieu qui se présente comme à la fois très saint et très proche. Jean, dans son évangile, explique l'incarnation ainsi, dans Jean 1, verset 14. « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jésus a habité parmi nous. Il est celui qui habite avec celui qui est abattu, afin de redonner la vie. Proche de Noël, nous pouvons entendre cela d'une manière particulière, chacun d'entre nous, dans notre quotidien actuel, et aussi comme une promesse pour le monde entier. Le texte d'Ésaïe nous parle de grâce, de justice et de salut. La grâce quand Dieu nous dit « Je ne veux pas m'irriter indéfiniment, car il est trop faible ». À Noël, Dieu nous montre qu'il a tant aimé le monde, ce monde qui se comporte comme son ennemi. Mais à cause de notre faiblesse, Dieu montre son amour, même au moment où nous agissons comme ses ennemis. Dieu fait grâce au milieu de nos égarements, loin de lui. La justice, Dieu est irrité par les profits criminels ou par l'avidité coupable, une autre traduction. Cela nous ramène au débordement possible quand on considère que le spirituel est plus important que le matériel et que l'on ne définit pas les liens de conséquence entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel. Le salut, dans le texte, celui qui a été criminel sera guéri et conduit par Dieu et consolé par Dieu. Une étonnante nouvelle. Qui sont ceux qui sont en deuil à cause de lui ? Ses proches qui le voient sur une mauvaise voie, ceux qui ont participé à ses actes mauvais et qui en sont à présent désolés, ou peut-être ceux qui sont victimes de ses mauvaises actions. Ésaïe nous dit que pour eux aussi, Dieu mettra en œuvre sa guérison. Pour eux aussi, il sera leur guide et leur consolation, et il leur apportera la paix. Et vraiment, le point d'orgue de cette annonce de Dieu, c'est la paix. C'est Dieu qui donne la paix. La paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Et cette paix est accompagnée de guérison et de louange. Les anges ont chanté « Paix sur la terre » à la naissance de Jésus à Bethléem. Oui, nous espérons en Dieu, nous espérons la paix, et en approchant du temps de Noël, nous sommes invités à porter cette espérance pour le monde. En conclusion, l'Avent est un temps d'attente, avant la célébration de la naissance de Jésus, la célébration de Noël, et aussi un temps d'attente particulière de la seconde venue de Jésus, de l'accomplissement de son règne sur la création. Attendre peut sembler passif, et on ne valorise pas vraiment le passif, la passivité dans notre société. Le mot hébreu pour « attente » contient à la fois l'idée d'attendre et celle d'espérer. Attendre dans l'espérance, c'est autre chose que d'attendre tout court. Ce n'est pas nécessairement faire toujours plus de cadeaux, toujours plus de sortes de petits gâteaux. Attendre dans l'espérance, c'est aussi vivre l'appel que Dieu nous transmet quand il nous dit « C'est dans le repos et le retour à moi que sera votre salut. » Et parce que nous vivons l'espérance, nous voilà en route pour la suite du programme, nous préparer à la joie, à l'amour, à la paix. Je vous invite à prier. Alors que nous nous préparons pour ce temps de Noël qui est devant nous, nous voulons aussi préparer nos cœurs au retour du Christ. Tu es venu pour ton peuple il y a 2000 ans, Seigneur, et tu viendras à nouveau pour nous. Alors qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie pour te recevoir quand tu es venu, nous voulons préparer de la place dans nos cœurs et là où nous vivons, Seigneur Jésus. Alors que nous décorons nos maisons pour Noël, alors que nous célébrons Noël, nous le faisons pour marquer la mémoire de ce mouvement de rédemption dans notre monde brisé que tu as accompli, notre Dieu. Nos arbres de Noël avec leurs décorations brillantes, nos hymnes festifs, nos repas somptueux, par ces petits symboles, nous affirmons qu'une chose étonnante est arrivée dans le temps et dans l'espace, Par eux, nous affirmons que Dieu, en une nuit particulière, en un endroit particulier, il y a si longtemps, nous est né. Un enfant roi, notre prince de la paix. Nos couronnes et nos rubans et nos lumières colorées, les cadeaux que nous offrons, nos fêtes avec des amis, tout cela n'a jamais été une fin en soi. Ils sont des manières toutes petites par lesquelles nous répétons ce son joyeux, proclamé premièrement par des anges dans les cieux près de Bethléem. En voyant une si grande annonce d'amour pour nous, pour tous les peuples, comment ne pas se sentir poussé à la louange et à la célébration dans ce temps de Noël ? Alors que nous décorons nos maisons, un sapin, alors que nous festoyons, rions et chantons ensemble, c'est une répétition pour la joie à venir. Nous nous apprêtons pour recevoir celui qui nous a déjà reçus, les bras grands ouverts. Nous voulons préparer pour toi une place dans nos cœurs et là où nous vivons, Seigneur Jésus. Maintenant, nous célébrons ta première venue, Emmanuel, et nous attendons ton retour. Prince de la paix, viens bientôt. Que ton règne vienne. Amen.